Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Alors, c'est pourquoi ?
Par curiosité, pour voir. C'est pour ça que je t'ai suivi, bonhomme.
Curiosité, l'info locale autrement. C'est sur Canal B du lundi au vendredi à 17h40 et en rediffusion le lendemain à 9h40. Et aujourd'hui, reportage long format dans le bois de la Motte, sur la commune du Reux, pour présenter un travail d'atlas de la biodiversité intercommunale. C'est un projet porté par les communes du Reux, de Mordel et Chavagne sur une période de 3 ans. Le détail est à retrouver en ligne sur le site de ces trois communes.
En Mordelais, je suis venu là.
Non. Eh bien, ici, on se retrouve dans le bois de la Motte. Hein. C'est un bois d'une vingtaine d'hectares, en fait, à proximité de la commune de l'Heureux. Vincent Lézé, je suis conseiller délégué à la transition écologique sur la commune de l'Heureux. C'est un bois qui est propriété de la commune depuis 2023. Voilà, et donc sur lequel on a eu quelques animations déjà de réalisées dans le cadre de l'Atlas de la biodiversité. Hein.
On rentre dans le vif du sujet. C'est quoi un atlas de la biodiversité communale? Et là, en l'occurrence, intercommunale.
L'idée, c'est de poser, comment dirais-je, les bases d'une connaissance de la biodiversité sur un espace donné, donc la trois communes, pour ensuite mettre des actions pour pouvoir promouvoir la protection de cette biodiversité qui puisse se développer harmonieusement. Olivier Bonnet, adjoint à l'aménagement et au patrimoine à la mairie de Mordel.
On explique comment est-ce que ça se met en place.
À l'origine, c'est les trois communes qui avaient dans leur programme l'idée de faire un atlas de la biodiversité. Et puis, la biodiversité n'ayant pas de frontières, on a décidé de se mettre tous les trois ensemble pour avoir un périmètre un peu plus grand. Et effectivement, après, pour des subventions, répondre à un appel à projet.
Est-ce que vous aviez vu que ça se faisait ailleurs sur le territoire pour avoir cet intérêt-là, pour cet outil qui est l'ABC ?
On en a entendu parler. Enfin, c'est vrai qu'il y a quand même quelques communes qui sont déjà engagées en fait dans un protocole un peu similaire. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que dans les trois communes, ça faisait partie du projet, quoi, en fait. Hein, voilà. C'est aussi dans la continuité, je pense, pour les trois communes d'actions qui sont déjà engagées autour de l'écologie. On est à la belle Apicité, on est à la belle 4 fleurs, il y a des actions de fauche tardive, etc. Il y a déjà pas mal de choses qui sont mises en place, je pense, dans les trois communes, hein, que ce soit Mordel, Chavagne ou l'Heureux. Enfin, donc c'était de se dire, allons un peu plus loin, prenons du temps, c'est aussi ça. C'est quelque part, on s'arrête là pendant 2 ans, et puis on prend quelque part une photo de ce qui se passe en fait au niveau de la commune, et on se donne du temps pour y réfléchir.
Vous avez déjà donné des exemples de ce que vous faisiez dans votre commune, donc pour l'Heureux, sur la biodiversité. Peut-être prolonger un peu la question sur quelle est l'ampleur de l'action qu'une commune peut mener sur ce sujet-là, qui dépasse évidemment l'échelle communale, mais est-ce qu'on peut mener des actions ambitieuses sur ce sujet-là ?
Les compétences communales étant ce qu'elles sont, on reste dans le champ de nos compétences et de la commune, mais ça peut être principalement des actions de reboisement. Après, quand on va au-delà de la biodiversité, ça peut être des actions en lieu avec l'environnement, la transition. Je vois par exemple à Mordel, on approvisionne les cantines à 80% en produits locaux. On construit une école en terre, paille, bois, voilà, des choses comme ça, quoi, en fait. Et ça va au-delà de la simple biodiversité. Mais c'est ce genre d'action que peuvent mettre en place des communes. Voilà, je vois l'exemple aussi à Mordel, on a mis en place une micro-forêt. Alors, le principe, ça a maintenant 3 ans, c'est de planter sur un espace réduit une forte densité d'arbres. Donc, c'est un botaniste japonais, Miyazaki, qui avait mis ça au point il y a quelques années. Donc, on a fait ça à Mordel, en centre-bourg. Et ça permet d'accueillir, justement, la biodiversité. Et c'est un petit espace, hein, c'est sur 500 mètres carrés, c'est très peu, très dense. Et qui va vivre de lui-même et qui va reproduire les conditions d'une grosse forêt, mais sur un petit espace, quoi. Et on en a d'autres en projet, enfin même qui sont lancés dans les futures zones d'aménagement à l'est de la commune.
Sur l'Heureux, on a un gros projet, par exemple, de réaménagement du lit du Lindon, hein, voilà, qui avait été, quelques années, en fait, remanié. Voilà ce qu'on faisait il y a dans les années 70, en fait, sans trop se poser de questions. Et donc là, on prévoit en fait de le remettre dans son lit initial. Donc ça aura forcément un impact sur les migrations de tout ce qui est poissons, amphibiens, etc. Sur la flore aussi, ça aura forcément une incidence. Voilà, ça fait partie des politiques qu'on peut mettre en place au niveau d'une commune. C'est des choix budgétaires que l'on fait.
Voilà un autre exemple à Mordel. On parle d'eau. Mais c'est pareil, on a un moulin qui coupait le cours du fumeux et qui empêche finalement la migration des poissons, mais il y a un bras de contournement qui a été créé de manière à ce que les poissons puissent contourner le moulin plus facilement pour pouvoir remonter la rivière et se reproduire plus facilement.
Et c'est quoi comme type de poisson qu'il y a dans...
Je ne suis pas pêcheur, je ne saurais pas vous dire, mais on n'a pas de saumon.
Il n'y a pas de bar non plus. Non, non.
De la carpe.
Oui, bah voilà, de carpe, du brochet, des choses comme ça, des frayères à brochet aussi qui sont mises en place, des espaces qui sont inondés l'hiver, que les brochets puissent pondre leurs œufs et on réouvre au printemps quand les alevins sont assez grands pour les relâcher dans la nature. Voilà, c'est tout un tas de choses comme ça qui sont mises en place sur les trois communes.
C'est un oiseau qu'on entend, c'est l'arbre qui plie.
C'est un pic. Oh, ouais, puis pour peu qu'il soit de l'autre côté du tronc, il peut rester deux heures et on ne le verra pas. Quoi.
L'Atlas de la biodiversité, c'est un top zéro quelque part de ce qu'on a en fait sur nos trois communes. Et donc ça nous permettra de voir un peu comment les choses évoluent en fonction de plein d'éléments qui se passent au fil d'une commune. C'est la construction, de la rénovation de la bâtiment, de la consommation de terres agricoles. Et on pourra mesurer en fait l'impact que ça pourrait avoir et corriger ou améliorer certaines actions qu'on met en place en fait.
Vous parliez d'un top zéro, ça veut dire que sur une commune comme celle dans laquelle vous êtes élu, on n'a pas une connaissance fine de la biodiversité aujourd'hui sur le territoire. On a déjà des éléments qui permettent de savoir ce qu'on a comme espèce présente, quoi.
Oui, ben, y a tout un tas d'éléments disparates qui viennent de différentes associations, de particuliers, d'autres organisations. Et le but de l'Atlas, c'est justement un peu de compiler tout ça pour avoir une vision un peu plus globale et de compléter les trous en fait qui nous manquent dans certains espèces, certains biotopes, des choses comme ça.
Ici, on a la chance d'avoir l'INRA aussi, qui a pas mal de données. Tiens, voilà, mais c'est d'explorer, de recenser, et puis un peu d'analyser. Mais ça, c'est aussi le travail de Justine, en fait, hein, de nous dire ce qui existe, et puis de ce qu'on doit faire comme inventaire complémentaire pour pouvoir aller un peu plus loin.
On s'en rend pas forcément compte dans son quotidien, mais on sait qu'il y a un déclin des insectes, qu'il y a des espèces qui n'ont plus l'espace nécessaire dans les villes pour évoluer. Est-ce qu'on s'en rend compte quand on est dans vos communes, quoi, de ces constats-là, ou c'est quelque chose d'assez invisible ?
Oui, il suffit d'ouvrir les yeux. Enfin, moi, je me rappelle quand j'étais gosse, je vois encore un bout de léa, un arbre à papillons, comme on dit, dans le jardin de mes parents. Il était couvert de dizaines de papillons. Aujourd'hui, quand on a un bout de léa avec 3-4 papillons dessus, on est content. Il y a ça, il y a les oiseaux, moi j'aime beaucoup observer les oiseaux, ça fait 20 ans que je fais ça, on voit une très nette différence, c'est clair.
Ouais. Après, ouais. Je trouve que, notamment sur la flore, moi j'ai quand même le sentiment, depuis qu'on a par exemple arrêté de traiter, d'utiliser des pesticides, des herbicides sur les bas-côtés, etc. Je trouve qu'on revoit des espèces, des primes verts, on a une multitude de primes verts aujourd'hui qu'on n'avait plus, on voit des coquelicots, c'est pas forcément très positif pour l'agriculteur, mais en tout cas on voit des coquelicots dans certaines cultures, et donc
il y a des choses qui
disparaissent, c'est vrai, il faut se poser pas mal de questions par rapport à ça, et puis voilà, et on voit que quand on a une action en fait positive, la vie reprend en fait. C'est ça aussi qui est fait. Voilà, c'est un élément.
C'est pas inéluctable. Voilà, si dire ça.
Est-ce qu'il y a des points un peu de curiosité, d'espèces qu'on imagine présentes sur vos territoires, mais où justement vous êtes curieux de voir si elles ont été recensées ou pas
Il y a des choses qui se voient, qui s'entendent, puis il y a tout ce qu'on voit très très peu, quoi, en fait. Hein, tout ce qui est amphibien, par exemple, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude en tant que particulier ou même élu d'explorer, alors qu'on s'est rendu compte en fait, qu'il y avait aussi une richesse.
Il y a tout un aspect aussi autour des chauves-souris, des chiroptères aussi, qui sont des choses assez discrètes, mais qui ont leur rôle très important. Donc là, c'est pareil, il y a des études un peu plus poussées là-dessus. Et puis il y a toute la petite flore, tous les insectes et tout ça qui ont leur rôle et qui, eux, sont quasiment invisibles pour les trois quarts des gens. Et voilà, qui sont intéressants à connaître.
Moi, je suis plutôt là sur la mobilisation des acteurs du territoire et sur la sensibilisation. Justine Delatouche, chargée de mission mobilisation et sensibilisation pour l'Atlas de biodiversité.
Comment vous êtes arrivée là, vous ? Vous étiez déjà dans ce champ-là ?
Exactement, ouais. Je travaillais pour une association d'éducation à l'environnement et étant habitante du territoire, j'avais aussi un peu envie de me rapprocher. J'ai répondu à cette offre présente sur le territoire.
Sur le processus, ça dure combien de temps de faire un atlas de la biodiversité communale ?
Je crois que là, on est parti sur 3 ans et là, on est à peu près à la moitié de l'inventaire. L'année passée, on était plutôt sur la compilation justement des données. Donc on a établi des listes de taxons à inventorier, là où il y avait des trous justement. Donc les inventaires complémentaires ont été faits là au printemps et cet été. Donc là on attend les réponses des inventaires avec impatience. Donc on les aura plutôt en fin d'année, voire début d'année prochaine. Parce que là les naturalistes sont sur le terrain et le temps qu'on ait les résultats, ça prend un petit peu de temps en fait, d'analyser. Donc on a hâte d'avoir les résultats.
Vous parlez de naturalistes, ça veut dire qu'il y a quelles équipes ?
Alors ça peut être, ils travaillent pour des associations, ça peut être par exemple le Grecia, qui est le groupe régional des invertébrés armoricains.
Après on se fait aider aussi par le CPIE de Brocéliande, qui ouais, est en fait en quelque sorte le maître d'œuvre de l'Atlas avec, avec Justine, quoi.
Le CPE, Centre Permanent d'Initiative pour l'Environnement. On va voir la Fédération des Chasseurs.
Bah après, voilà, c'est des choses ponctuelles avec la LPO, avec des organismes comme ça, des associations comme ça.
Olivier parlait tout à l'heure du fait de l'avoir fait entre trois communes et de dire qu'il n'y a pas de frontières. C'est vrai pour la biodiversité, mais c'est aussi, avec trois communes, ça nous a donné aussi plus de moyens, en fait, pour, à l'échelle d'une commune. On n'aurait pas pu embaucher quelqu'un qui allait s'occuper, en fait, de l'animation. Voilà. Donc on a une capacité budgétaire qui est plus importante et qui nous permet, théoriquement, d'avoir des moyens plus importants et d'avoir une efficacité ou en tout cas des animations qui seront aussi plus conséquentes en fait.
Et en termes de coordination, il y a une autre personne aussi qui travaille donc à la ville de Mordel, qui est M. Sébastien Benoît, qui lui est chargé vraiment de la coordination entre le CPE, entre les actions de Justine et les différentes associations. Bon, alors, rajouter une petite chose, c'est au niveau des financements, parce que c'est pareil, on travaille beaucoup, on a pour objectif d'avoir 80% de subventions.
C'est des financements qui viennent d'où ?
Eh ben voilà, justement, région, département, Rennes Métropole, et on se rend compte qu'il faut aller les chercher vraiment au forceps. Notre projet a l'air est applaudi par tout le monde, mais on se rend compte que quand il faut mettre la main au porte-monnaie derrière, donc à bon entendeur, salut, comme on dit. Voilà, il y a un message à passer là-dessus. C'est vrai que des subventions sont ouvertes, il y a des lignes de crédit, mais il faut vraiment se battre, et aujourd'hui, on n'a rien de sûr en termes de subventions pour tout ça. Donc on attend vraiment des concrétisations de la part des politiques régionaux, départementaux, de métropole à ce sujet-là.
C'est sur le montage des dossiers que ça peut être lourd
Oui, c'est très compliqué en termes de montage de dossiers et puis après en études au niveau des différentes structures. Alors, ce qu'il faut avouer, c'est que l'Office français de la biodiversité, lui par contre, a été très réactif et nous soutient beaucoup dans cette démarche.
Ces inventaires, ils ont lieu de quelle manière ? On peut expliquer un petit peu là-dessus ? À quelle fréquence ? Est-ce que c'est ciblé à chaque fois ?
Ça dépend beaucoup des espèces à observer. Il y en a qu'on observe qu'en été, d'autres qu'en hiver, quand il pleut, quand il fait sec, etc. Donc c'est réparti sur toute l'année. Et il y a aussi le projet de faire des inventaires participatifs. Donc il y a une application qui est en cours, e-naturaliste, où les gens peuvent partager leurs observations.
Sur chacun de vos territoires, l'Heureux et Mordel, il y a des zones particulières où ces inventaires ont eu lieu.
Oui, vous avez identifié en fait, par exemple des zones humides, on parlait des amphibiens tout à l'heure. Ouais. Après la flore, ça s'est fait un peu sur tout le territoire. On a répertorié en fonction des communes un certain nombre d'espèces. Voilà. Et puis tout ce qui est chiroptère dont on parlait tout à l'heure, on a plutôt ciblé des vieux bâtiments en fait, où il peut y avoir un refuge de chiroptères.
Ou des vieux arbres aussi vieux qui arbres peuvent accueillir les chiroptères. Hein.
On pense peut-être plus facilement à la faune qu'à la flore, ou en tout cas quand on est habitant, on a une curiosité pour le monde animal, mais sur les espèces végétales, moi je ne serais pas capable de dire quelles espèces végétales on trouve sur mon territoire, à part peut-être les fleurs les plus évidentes qu'on croise dans nos rues. Quoi, mais
De mémoire, sur le rue, c'est 160 espèces végétales. Je crois que c'était. Enfin, moi, j'ai été surpris par le nombre d'espèces végétales.
Ah, mais je pense qu'il y a beaucoup plus que ça encore.
Oui,
hein. Ouais.
Oui.
C'est difficile de tout inventorier. Et là, les inventaires, tout ne sera pas dedans. Il va en manquer. C'est pour ça aussi qu'on a sollicité les habitants via l'application e-naturaliste pour que eux, lors de leur balade, ils puissent intégrer leurs observations dans l'application.
On peut donner des exemples d'espèces végétales, qu'elles soient communes ou moins connues.
Autour de nous, on a du chêne, du hêtre, du houx, du charme, des châtaigniers.
On est donc à la moitié de cet atlas de la biodiversité intercommunale. Ça veut dire que la deuxième partie, c'est plus la sensibilisation, enfin, c'est d'aller vers le grand public.
Ça se fait en parallèle. Donc on a déjà commencé la sensibilisation.
Il y a une animation qui a été pilotée par Justine comme reconnaissance autour de la chouette, la chouette hulotte, donc avec une partie en salle et puis une partie dans le bois en pleine nuit en fait à la découverte et à et à l'écoute des chouettes. Et on a eu le plaisir en fait, d'en entendre deux, un mâle et puis une femelle. Et on a eu une trentaine de personnes qui participaient à cette animation.
Ça, c'était un peu le premier événement en termes de sensibilisation du grand public. Donc, il y en a eu d'autres depuis. On a fait des animations autour de la mare pour découvrir les amphibiens. Donc, on a fait ça au bois de la Cillandais à Chavagnes. On a aussi eu deux inventaires sur les papillons de nuit. Donc là, on a eu un spécialiste des papillons de nuit qui est venu inventorier. Et avec les habitants, on a inventorié sur les trois communes les papillons de nuit. Donc là, il y a eu près de 80 espèces à chaque fois qui ont été trouvées. Ça paraît énorme, mais en fait, c'est très peu parce que rien qu'en Bretagne, je crois qu'il y a près de 1000 espèces de papillons de nuit différentes. On a fait des animations également auprès des scolaires. On essaye aussi de sensibiliser les agriculteurs en les faisant intégrer ce qu'on appelle l'Observatoire agricole de la biodiversité pour avoir des données aussi supplémentaires dans le milieu agricole. On a peu de données, on a beaucoup de données sur les oiseaux, les mammifères, mais sur les invertébrés, sur les papillons, des fois on a en manque de données, donc on essaye de les intégrer au protocole. On va essayer aussi d'aller vers les entreprises pour que les entreprises puissent participer à la préservation de la biodiversité en laissant des espaces propices aux insectes pour qu'ils puissent faire leur cycle de vie.
L'idée aussi, c'est de sensibiliser, enfin, sensibiliser, je pense qu'ils sont déjà sensibilisés, mais d'aller vers les agents communaux, de les informer en fait de l'ensemble de ce qu'on a pu voir sur leur, sur leur territoire, et puis eux aussi pour essayer de faire évoluer leur façon de faire. Donc ça fait aussi partie du public cible aussi de l'Atlas. Ouais.
Est-ce que sur ce qui a eu lieu, le public vient nombreux, enfin, les gens sont curieux
En général, les animations étaient complètes. Moi, je prends souvent des groupes autour de 25-30 personnes et c'était complet. Donc les habitants sont demandeurs de ce genre d'animation.
Le Calopteryx vierge.
C'est une demoiselle.
Il y a des photos, en fait, et puis il y a des poèmes qui ont été faits par un monsieur, là, un Rezois. Donc on a, je sais plus, une dizaine de poèmes, en fait, qui sont en lien avec le thème de la biodiversité et du bois de la Motte, en fait.
Sur les atlas de biodiversité communale, quelle forme de restitution on peut imaginer une fois que tout a été inventorié? Ça peut prendre la forme, alors là il y a une exposition à côté de nous, mais où ça peut prendre la forme d'un véritable atlas, ça ressemble à quoi la trace qu'on en garde de ce travail-là?
Une fois qu'on aura cet état des lieux, le CPE de Brocéliande va nous établir les cartes avec les endroits justement à surveiller, à améliorer, ceux qui vont bien. Il y a des cartes effectivement, des listings, des fichiers et puis surtout des fiches projets, des recommandations par type de milieu, de choses à améliorer, voilà, des choses de ce style, quoi.
On peut mettre en avant ce que Chavagnes est en train de faire en parallèle de l'Atlas de biodiversité. Chavagnes s'inscrit dans un projet qui est Bresse Biodive. Et grâce à ce projet, ils ont pu financer un sentier pédagogique dans leur bois, le bois de la Cillandais. Donc là, il y a des panneaux qui vont être installés, des panneaux pédagogiques, pour découvrir justement la biodiversité de leur bois.
Ça peut changer un peu des choix politiques à l'échelle d'une commune, d'avoir ce document-là?
Ça peut remettre en question des aménagements, oui, absolument, oui. Ça peut refaire changer d'avis sur un secteur qu'on estimait pauvre et qu'on découvre riche ou d'importance si on le reboisait.
Moi, j'aimerais rajouter par rapport aux objectifs aussi de l'Atlas, c'est qu'on se rend compte que il y a souvent de la fragmentation dans ce qu'on appelle la trame verte et bleue. C'est ce qu'utilisent les espèces pour se déplacer, se nourrir. Et un des objectifs de l'Atlas, c'est d'améliorer ces trames verte et bleue. Donc ça peut passer justement par la restauration de haies, la restauration de mares, pour permettre à ces espèces de mieux se déplacer.
Est-ce qu'on peut citer les prochaines animations?
Ah bah oui, bien sûr. On va organiser ce qu'on appelle la Nuit des Dragons cet automne. La Nuit des Dragons, c'est un protocole de science participative pour compter les salamandres. Donc on va le faire sur chaque commune, donc ça sera avec les habitants. Le but, c'est de marcher dans un espace boisé qui est propice aux salamandres. À cette époque-là, les salamandres, elles vont sortir par une nuit un peu douce et humide pour se reproduire. Et donc c'est le moment pour les compter, et donc on va les compter à Chavagnes le vendredi 11 octobre, le 29 octobre à Mordel, et au Reu, dans ce bois, on va les compter aussi à l'automne, mais on n'a pas encore défini la date.
C'est différents types de salamandres ou c'est une salamandre bien précise?
Non, en Bretagne, on n'a que la salamandre tachetée, qui est noire et jaune.
Noire et jaune.